Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'arrive à peine à y croire, mais j'ai l'honneur de recevoir Chérine Bouteilla sur ce podcast. Elle va nous partager son parcours, nous allons parler Netflix, Sephora, entrepreneuriat, place de la femme en Algérie. Bref, ça va être une conversation très riche. Je suis ravie de pouvoir vous la proposer et j'espère qu'elle vous plaira et vous prouvera que, une fois encore, tout est possible. Il suffit vraiment d'y croire et d'avancer avec le cœur. Salut Chérine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer, comme il est de tradition dans ce podcast, à te présenter et nous dire un peu qui tu es ?
Yes. Eh ben, merci à toi, Laurita. Alors, moi, c'est Chérine Bouteilla. Je suis actrice et aussi influenceuse, donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai 30 ans et j'ai commencé mes activités il n'y a pas si longtemps que ça.
Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant ?
Alors, avant, justement, j'étais. Alors, je vivais en Autriche à l'époque. Et j'ai pas mal bougé parce que j'étais à la recherche de moi-même et j'étais en Autriche et je m'ennuyais parce qu'apprendre l'allemand c'est très difficile, que je ne comprenais pas ce que je regardais à la télé, que je ne comprenais rien à ce qui se passait autour de moi, j'étais relativement seule et du coup je passais mon temps à regarder des vidéos YouTube, à regarder un peu tout et n'importe quoi et je suis tombée sur des vidéos de make-up. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a attirée. Et puis, je me suis dit, tiens, why not, vu que je m'ennuyais. Donc, je suis allée dépenser tous mes sous en bas de chez moi. J'avais un équivalent de Marionneau, des choses comme ça, qui vendaient des cosmétiques. Et puis, j'ai commencé à m'amuser avec. Et puis, je me suis découvert une passion. J'en ai fait une chaîne YouTube qui a plutôt bien marché, avec une audience vachement algérienne, parce que je suis algérienne et j'ai des amis algériens, donc qui ont voulu me soutenir, qui ont partagé sur leur réseau, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé à prendre. Et puis à ce moment-là, à Vienne, je travaillais à l'époque dans un restaurant. En même temps, j'étudiais la langue parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et comme j'ai dit, vu que c'est hyper compliqué comme langue, pour travailler, être bilingue, c'était un long chemin à parcourir. Et puis à un moment, après ma rupture, qui s'est d'ailleurs très bien passée avec mon ex à l'époque de là-bas, je me suis dit, bon, bah, tentons autre chose, partons. J'aime bien les recommencements de zéro quand je suis un peu paumée. Et donc, je suis re-rentrée en Algérie après avoir été contactée par une boîte de production qui me disait qu'ils aimaient bien mon profil et qui me verraient bien animer des petites capsules ou des événements ou des choses comme ça. Enfin, ils allaient voir ce qu'ils allaient faire de moi. Donc, j'y suis allée, j'ai passé des castings et c'est comme ça que j'ai commencé ma première série. Et mes premiers projets vidéo hors de chez moi, parce que d'habitude c'était avec ma caméra à moi dans ma chambre ou chez moi en tout cas. Et là c'était plus professionnel disons, et c'était autre chose quoi. C'était des capsules pour animer à l'époque des événements musicaux, des choses comme ça. Et puis après un casting pour une série, et j'ai commencé mes premières séries en Algérie.
Je voulais juste te demander, alors déjà ça c'était en quelle année ? Enfin, une histoire de Vienne et tout ça ?
En quelle année l'histoire de Vienne ? Alors, j'ai dû rentrer en Algérie en 2016, je crois. Donc, c'était autour de 2013-2014.
Comment t'as fait pour te démarquer ? Parce que tu vois, sur YouTube, c'est pas comme si les personnes qui filment dans leur chambre, il n'y en a pas 150 000. Comment t'as fait, toi, pour quelle est ta touche, tu crois, qui a vraiment plu ?
Alors, à l'époque, vu que je commençais, encore une fois, enfin, moi, j'ai commencé directement en français. Je suis francophone. Et là-bas, en fait, donc j'ai dit, c'est une communauté algérienne qui a surtout pris et qui s'est intéressée à mon contenu. Et en fait, là-bas, l'avantage, c'est qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand monde, quoi. Il y avait peut-être 4 blogueuses, youtubeuses beauté qui faisaient ce que j'allais faire. Et puis, on est dans un univers extrêmement différent entre celles qui portent le voile, celles qui parlent l'arabe. Enfin, tu vois, donc ma place est finalement naturellement et rapidement faite. Parce que je touchais, je pense, une autre catégorie de personnes qu'elles ne touchaient pas forcément ou peut-être en partie. Et c'est comme ça que ça a pu très, très vite prendre, où j'ai atteint très vite les 80 000 abonnés sur Instagram, avec des vues qui allaient autour de 100 000 sur YouTube, ce qui est énormissime pour quand on commence. Et là-bas, je ne me suis même pas posé la question. En fait, ça s'est fait tellement vite. Et c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et même à l'époque... En fait, c'était un peu comme les débuts en France, je pense, où il n'y avait pas vraiment de structure, où il n'y avait même pas de nom dessus, on n'appelait pas ça influenceuse, on disait blogueuse encore. Enfin, vraiment, il n'y avait pas grand monde, et encore moins en Algérie, où même les sociétés, les partenariats en France, ça existait déjà, mais en Algérie, pas du tout. Donc déjà à l'époque, quand je voyais en fait les youtubeuses françaises et les instagrammeuses françaises parler de ça, où je voyais que elles étaient rémunérées pour ce qu'elles faisaient, que c'était considéré comme de la publicité en fait, comme de l'affichage, comme de la promotion, etc. J'ai essayé de faire ça aussi en Algérie, où quand on me disait, ah tiens, c'est super, t'as plein d'abonnés, est-ce que tu parlais de mon truc, j'étais là, ouais les gars, mais par contre faudra me payer. Ah bon, mais pourquoi? Parce que je vais quand même mettre en avant votre produit, les gens vont consommer, vont acheter, donc voilà, je vous rapporte de la thune. Oui, mais bon, enfin, c'est qu'une story, quoi. Et c'est là, ouais, mais justement, en fait, enfin, bref, et là-bas, les discussions ne se faisaient pas encore. Souvent, on me répondait plus, en fait, on me laissait un blanc. Et après, là, j'ai eu des retours d'autres personnes qui me disaient, ouais, genre, ils sont là à dire, mais elle se prend pour qui, en fait, elle? Genre, elle a cru qu'elle allait, enfin.
Tu leur as expliqué les bases du métier, enfin, tu leur as expliqué le métier, c'est comme ça, parce que voilà, je vais t'apporter des gens, donc du coup,
Ouais.
tout le mérite de salaire, enfin, c'est la base de
Et
la base.
pour eux, c'était prendre mon téléphone, faire ce que je fais tous les jours et juste dire hey, salut, bonjour. Au fait, regardez, il y a ça qui est archi cool, le machin.
Ouais.
Oui. Il me disait bah, oui, mais c'est une story, quoi. Enfin, tu vois, ça te coûte rien de faire une story. Non, mais bon. Enfin, tu vois, c'est très. À l'époque, c'était hyper compliqué. Et donc, je t'avoue que je ne gagnais pas forcément ma vie avec ça. Et du moment que ça me passionnait et que j'aimais, à l'époque, j'étais vraiment à fond sur le côté make-up et je voulais même devenir make-up artiste, que ce soit pour les shootings photos, j'en ai fait quelques-uns. À un moment donné, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien finir par être make-up de cinéma, des choses comme ça. Ça s'est fait différemment par la suite. Mais au final, sur le coup, je m'y donnais à fond. Donc, je maquillais quelques particuliers pour des mariages, pour des événements. Donc, j'arrivais quand même à gagner un petit peu d'argent à côté de ce que j'avais entamé avec la boîte de prod, à savoir des événements capsules. Mais ça, c'était vraiment pendant une période particulière. C'est pendant le Ramadan, où en Algérie, il faut savoir que vraiment, il y a tout un truc qui se fait autour de ce mois, plein de spectacles, plein de représentations artistiques, des chanteurs qui viennent un peu de partout, etc. Et donc, je faisais des vidéos pour les sponsors avant de commencer à être actrice ou comédienne là-bas. C'est ça ma passion. Donc, finalement, je m'étais pas fixé comme objectif de gagner ma vie avec les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, je pensais pas que c'était possible.
D'accord. Donc tu t'es dit, c'est ma passion, je vais faire ça pour le moment.
C'est ça.
Ok. Et donc cette petite série, tu me dis que c'était temporaire, c'est ça? Enfin, cette collection capsule?
En fait, c'était d'abord, ouais, c'était vraiment, ça a duré, pour le coup, une saison. On devait le refaire l'année d'après. C'était pour le sponsor principal, où c'est des vidéos de 3-4 minutes où j'allais interviewer un peu les gens avant, pendant et après le spectacle, où j'interviewais les artistes. Vraiment, c'était court, hein. Et puis après, j'ai passé. En fait, ils voulaient me garder sous la poche, donc ils m'ont fait travailler chez eux. Du coup, j'ai pu découvrir un peu le métier d'assistante de réalisation, d'assistante de production. J'ai aussi. Ouais, c'était franchement cool, c'était hyper enrichissant. J'ai participé aussi à. Enfin, on avait essayé de créer à l'époque un concept d'émission un peu à la. Touche pas à mon poste, en analysant un peu les contenus, enfin les productions locales, tout ça. Finalement, ça n'a pas pris, mais que j'ai quand même participé à de l'écriture, à essayer de monter un projet, donc c'était super. Le temps qu'il y ait d'autres projets pour lesquels je pouvais passer des castings. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai été prise pour ma première série fiction drama en Algérie qui s'appelait, disons que ça s'appelait La Fraternité en français, ça s'appelait El Khawa. Et c'est super, je suis hyper heureuse d'avoir fait ça parce que c'était un projet innovant à l'époque. Je dis à l'époque, c'était en 2017, je crois. 2018, ouais, 2017, 2017, 2016, tiens. En tout cas, voilà, autour de 2016-2017, c'était vachement nouveau, que ce soit techniquement, ils avaient fait appel à des techniciens et un réalisateur tunisien. Donc, ils avaient apporté leur savoir-faire, ils sont quand même un petit peu en avance là-dessus. Leur savoir-faire, donc visuellement, techniquement. Ils avaient fait appel à une scénariste qui était en Égypte, à ce moment-là, qui est algérienne et qui était en Égypte. Donc, eux aussi, ils sont hyper connus, en tout cas en Algérie, et je crois partout dans le monde, pour leur série drama, tout ça. Et donc, tout ça mélangé, ça a fait une super série qui, en plus, tournait autour de femmes. Et ça, j'en étais hyper fière, où en fait, c'était. En gros, une famille, voilà, dont le qui perdait le papa disparaissait, donc il restait la maman et les trois filles, entre auto-entrepreneurs, jeune fille un petit peu paumée, mais quand même fille mise en avant avec ses problèmes des problèmes de société comme la drogue, les choses comme ça. Et c'est vraiment super, ça a cartonné. Vraiment, ça a vraiment cartonné, ça a fait un super buzz, que ce soit là-bas ou même, enfin, toute la communauté maghrébine à l'étranger qui, pendant le mois de Ramadan, regarde les programmes algériens. Et c'était ma première expérience. C'était hyper stressant, hyper hyper chelou parce que j'avais jamais pris de cours, j'avais jamais rien fait dans ce sens-là. Mais je me suis bizarrement sentie hyper à l'aise. Autant avoir encore une fois une caméra, être dirigée surtout par quelqu'un qui te demande de faire quelque chose, de ressentir quelque chose, de jouer quelque chose, et toute une équipe technique derrière qui est là, qui te regarde, qui t'attend, tu vois. C'était un peu stressant. Autant j'étais à l'aise devant la caméra, autant j'étais pas sûre de moi en tant qu'actrice. Donc il y a plein de choses où je me retenais, où je stressais parce que je pensais que je faisais mal, des choses comme ça. Mais ça m'a quand même permis de me voir en fait jouer. Et je crois que ça a été le meilleur apprentissage en me regardant. Autant des fois je me disais, oh my god, mais c'est nul, c'est pas crédible, c'est pas ci, c'est pas ça. Autant des fois je me disais, ah ouais, pas mal. Tu vois, genre surtout les trucs un peu forts où il fallait genre pleurer, crier, machin, c'était là, ça va, ça passe. Mais ça m'a vachement, je te jure, j'ai appris de moi-même avec moi-même, en m'autant critiquant et m'auto-jugeant. J'ai été un petit peu dure avec moi-même, et c'est comme ça que je me dis qu'on avance. Et franchement, la saison 2, j'étais quand même assez contente de ce que j'avais fait. C'était des bons challenges. Ouais, franchement. Et voilà, c'est un peu allé tout seul, j'ai envie de dire. J'avais fait aussi une autre série comique. Alors là aussi, c'était assez spécial parce que j'avais un personnage un peu hyper, hyper masculin, tout l'opposé de l'autre. L'autre qui était genre une femme d'affaires, tu sais, en tailleur, talons tous les jours, un peu froide, un peu directive, tu vois. Et j'avais ce personnage-là en mode garçon manqué, vendeur de l'équivalent de crêpes dans un quartier, tu vois, à la Casbah en Algérie, avec un accent hyper fort, avec j'essaie de choper les mimiques des gars comme ça. Et même ce personnage, je l'aimais beaucoup parce que ça représente aussi une partie de la société où voilà, en tant que femme, tu dois un peu te masculiniser pour t'intégrer, pour être respectée, pour avoir ta place. Parce qu'en fait, l'histoire de mon personnage, qui s'appelait Joe, c'est elle qui s'occupait en fait de sa famille, de son petit frère, et c'est elle qui apportait l'argent à la maison, donc c'était elle qui était responsable, tu vois. Et j'aimais aussi cette façon de, tu vois, d'être débrouillarde, de devoir s'adapter à son environnement, mais d'y être quand même et d'avoir sa place. Et c'était un truc comique, c'était hyper cool à tourner, je me suis vachement amusée. Mais là aussi, vu que c'est ma première expérience et que tu n'as aucun retour, tu ne te vois pas, tu ne sais pas ce que tu fais. Plus, le réalisateur était tunisien, donc l'humour, les mimiques et tout, il ne les connaissait pas forcément parce que ce n'est pas du tout, enfin, ce n'est pas la même chose, quoi. Mais c'était quand même une belle expérience et ça m'a quand même permis d'apprendre en fait de différents styles, différentes façons de jouer avec mon corps, avec ma voix et tout. C'était très rigolo.
Trop énorme. Franchement,
je suis rentrée dans le tas, ouais. J'ai foncé dans le tas. Voilà.
Mais ça, c'était toujours en Algérie. Hein. Enfin,
toujours en Algérie, ouais.
Donc, en fait, à ce moment-là, tu t'es dit, OK, bah, finalement, je ne vais pas que faire, entre guillemets, hein, parce que y a ça déjà beaucoup, beaucoup de boulot, mais que faire influenceuse, je veux aussi être actrice.
Ouais. Bah, à ce moment-là, j'aimais beaucoup. Et il faut savoir, c'est une chose, c'est qu'en Algérie, les productions se font autour du Ramadan. Donc, on commence à travailler à partir de la fin d'année. La rentrée, pour nous, c'est genre décembre, janvier, si tu veux. Et puis, donc, tu fais ton projet jusqu'au Ramadan. Et après le Ramadan, c'est la pause jusqu'à la suite. Donc, au final, il y a quand même pas mal de moments où il n'y a rien, en fait. C'est un moment de flottement. Et ça me permettait de reprendre mon contenu sur les réseaux, YouTube, faire ce que je fais, mon montage tout seul, je travaillais toute seule et tout. Donc en fait, finalement, ça se faisait bien. Genre, j'avais trois mois à peu près où j'étais pas dispo, où ils me suivaient sur les réseaux pour autre chose, parce qu'ils me suivaient, ils savaient très bien ce que je faisais, et vu qu'ils kiffaient, que j'avais une vraie communauté autour de ces séries-là. Donc il n'y avait pas de problème. Et puis quand j'enchaînais avec les vidéos YouTube, ils étaient là aussi. Donc finalement, ça s'enchaînait très bien, quoi. Ça se faisait tout seul.
D'accord. Alors, j'ai deux questions pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je te l'ai dit maintenant parce que sinon, je vais les oublier. Donc, à deux, on va peut-être ne pas les oublier. La première question, c'est la place de la femme, du coup, en Algérie, parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident. Mmh. Et la deuxième question, c'est, tu viens de dire que tu faisais tes montages toute seule. Est-ce que c'est encore le cas? Et si oui, pourquoi tu ne te fais pas aider?
Alors, je vais commencer par répondre par la première, la plus simple, par la deuxième plutôt. Montage seul, parce que je me disais que... À l'époque, j'avais vraiment le temps de le faire, donc au contraire, ça me faisait plaisir parce qu'en plus c'était aussi challengeant où j'y connaissais rien, donc j'ai appris sur YouTube, je me suis auto-formée, j'ai téléchargé plein de trucs, enfin j'aimais vraiment beaucoup découvrir, surtout qu'au final, aujourd'hui, même si j'ai vachement fait de recherche et que j'ai vachement avancé là-dessus, je suis qu'à 10% de ce que je peux faire avec ces logiciels que j'ai, ouais. Tu vois. Donc, je trouve ça hyper challengeant et puis c'est amusant. Et puis, me faire aider parce que j'avais l'impression que ça allait dépersonnaliser ce que je faisais, parce que j'ai l'impression que j'y mets vraiment de moi-même, avec mon humour, avec ma façon d'être, ou selon mon... Je sais pas, en fait, selon ce que je vois, ce que j'ai filmé, le rythme, j'ai envie de faire un découpage comme ci ou comme ça, de rajouter telle musique, de rajouter tel effet. Et c'est moi, quoi, au final, c'est ma personnalité qui est quand même dans mon montage. Je t'avoue que je me suis longtemps posé la question et que à un moment où j'avais envie d'être beaucoup plus productive, je me disais, ouais, ça peut être la solution. Et en fait, il faut juste que je trouve quelqu'un qui me comprenne, qui voit un petit peu ce que j'ai déjà fait. Et au final, c'est leur métier, donc j'imagine qu'ils savent très bien le faire. Mais entre-temps, j'étais beaucoup moins active. Et beaucoup moins présente. Et bon, on va enchaîner avec. On y reviendra plus tard parce qu'au final, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins le temps de le faire. Voilà. Et pour la deuxième question, place de la femme en Algérie. Alors, c'est très compliqué et en même temps très délicat parce que les choses évoluent quand même, surtout depuis, depuis le 22 février d'il y a 2 ans. Où, ouais. Ouais, en 2019, ça fait 2 ans, c'est énorme. Et donc, ouais, quand ça a commencé avec les manifs déjà, où les femmes prenaient de plus en plus de place, c'est jusqu'à aujourd'hui, où elles ont, enfin aujourd'hui, il y a des associations qui sont créées. Autant au début, elles avaient un petit peu de mal à se mettre en place, où on leur disait, je n'étais pas physiquement en Algérie, mais j'y suis quand même allée 3 fois, juste pour assister aux manifestations, parce que je voulais en faire partie, parce que je fais partie aussi de cette jeunesse qui veut que les choses évoluent et que les choses s'améliorent. Et je me rappelle que j'avais vu sur les réseaux qu'il y avait un petit groupe de femmes qui essayaient de manifester, mais beaucoup plus, c'était beaucoup plus tourné vers les droits de la femme, au niveau, avec les droits de la famille, tout ça. Et je sais que c'était un petit peu compliqué, qu'elles se sont un petit peu, elles ont été un petit peu bousculées et mises de côté, où on disait, ouais, c'est pas le moment, Non, c'est pas maintenant. Et je sais aujourd'hui, via un ami journaliste qui m'a donné des nouvelles, que ça a pris de l'ampleur, qu'elles ont continué, qu'elles ont finalement, le groupe s'est agrandi, donc elles prenaient plus de place physiquement parlant aussi. Et finalement, elles y sont aujourd'hui. Et il y a une association qui a été créée avec des femmes de tous les milieux, des avocates, des journalistes, enfin vraiment de tout. Et je suis hyper heureuse de savoir que ça évolue. Et je ne l'ai pas encore fait, mais je ne savais même pas que ça existait. Mais je vais essayer vraiment de m'y intéresser plus et d'essayer d'apporter aussi ma petite patte. Parce que c'est finalement un sujet et un combat qui m'attire et qui m'intéresse de plus en plus. En tant que femme après du monde, j'ai pas envie de dire spécialement en France ou n'importe où, mais juste en tant que femme. Et voilà, c'est pour ça que je suis aussi hyper fière et heureuse d'avoir eu des rôles qui ont participé à ça. Je te parlais de la première série Al-Khawa, où si tu veux, un peu malgré moi, où à l'époque je me rendais pas forcément compte de ce qui se passait, mais j'avais un rôle vraiment qui changeait un peu la vision qu'on avait de la femme, même par rapport aux productions qui avaient été faites plus tôt, où la femme est plutôt à la maison. C'est un peu des histoires de voisinage, tu vois, de ménagère au final, tu vois, de femme au foyer, des choses comme ça. Et là, on mettait en avant des femmes qui travaillaient, on voyait la majorité du temps au bureau. Tu vois, je rentrais le soir dans la série avec ma Range Rover. Enfin, tu vois, on donnait vraiment l'image d'une femme accomplie, indépendante, qui a réussi en plus, avec tous les signes vestimentaires et autres extérieurs qui prouvaient que, elle avait réussi. Je trouvais ça hyper cool. Et même, je te dis, mais les filles avec qui je jouais, il y avait un personnage qui était entre deux hommes, elle ne savait pas trop. Et même ça, c'est super dans une société comme ça où c'est un peu l'homme quand même qui a tout pouvoir, où tu avais une femme qui hésitait entre deux mecs. Enfin, c'était hyper cool. Et puis la jeune fille qui avait des problèmes de drogue, qui sortait le soir, qui avait un petit ami, qui l'avait incité justement à commencer à prendre de la drogue. Finalement, c'est quand même une jeune fille qui sort, qui a un copain. Et à l'époque où on avait lu le scénario, on s'est dit « Ouh là 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 !» Ça va, enfin ouais, les gens, est-ce qu'ils sont prêts à voir ça, à entendre ça? Ça va un peu les choquer. Vraiment, on avait limite un peu peur de l'accueil qu'on allait avoir. Et finalement, les gens ont adoré parce que c'était bien fait, c'était bien dit, c'était bien raconté. C'était propre, quoi, tu vois. Et moi, je suis finalement sûre que, de toute façon, c'est prouvé que c'est aussi via la culture qu'on fait évoluer les sociétés et les mentalités. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde a suivi du coup, parce que c'était le challenge à l'époque où ils disaient waouh, c'est quoi cette série? Il faut qu'on fasse tous pareil. Toutes les pros se sont mises à investir de ouf, à mettre beaucoup de thunes pour avoir des productions de qualité, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. En fait, chaque année, tout le monde s'y est vraiment mis, et on a des productions vraiment qualitatives et les femmes sont hyper présentes et qui sont à l'opposé de l'image qu'on en avait avant, ouais, tu vois.
C'est clair.
C'est des femmes apprêtées, c'est des femmes jeunes, c'est des femmes... Et surtout, elles sont jeunes, voilà, en fait. C'est ça, c'est qu'elles reflètent finalement aussi la société qui a complètement évolué, tu vois, entre les traditions d'avant et la soif de cette jeunesse, de modernité et tout ça, c'est... Ça évolue avec,
ouais,
quoi.
Mais c'est ouf que t'aies été aux prémices de tout ça, franchement.
Mais grave, mais sans même... Tu vois, sans faire exprès, tu vois. Et c'est ça qui est génial, des fois, c'est que la vie fait bien les choses, finalement.
Grave. Finalement, t'es presque dans le rôle de ton premier rôle. Enfin, ta vraie vie, c'est presque ton premier rôle, en fait, maintenant. Enfin, hyper épanouie, la businesswoman de malade.
Ah, mais complètement, sûre d'elle, fonceuse, mais carrément. Vraiment, finalement, elle m'aurait inspirée aussi. Elle s'appelait Amina Mostefaoui. Elle m'aurait inspirée aussi beaucoup. Et ouais, donc la place de la femme en Algérie, écoute, elle est en évolution et en très grande évolution même. Et ça, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Ça, je pense, ça a eu un impact partout dans le monde entier, que ça, pour tous les domaines et pour tous les thèmes. Et dont la femme, où on parle plus, elles sont plus présentes sur les réseaux. Moins comme on les attend, et puis elles osent aussi plus dénoncer. Et en fait, c'est à force de voir les autres faire qu'on se dit, bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais y aller. Et je l'ai vu, ça, via les réseaux sociaux. Il y a l'époque où j'avais fait une tentative, justement, de dénonciation, de harcèlement sur Internet, que ce soit en tant que femme ou juste en tant que personne, en tant qu'humaine. Et j'avais participé à l'époque à une conférence qui était fermée quand même, qui était à huis clos, c'était lors d'un événement d'un Comic-Con algérien. Donc moi, à l'époque, j'estimais que c'était le public, le meilleur public pour en parler, c'était des jeunes qui étaient très connectés aussi. Et donc, je parlais de cyberharcèlement et j'ai décidé de lire à haute voix ce que je recevais comme commentaire d'insultes ou voilà, négatif, parce que je suis une femme, parce que je mets des jupes, parce que je m'habille comme j'en ai envie. C'était un petit peu violent, j'avoue, mais en soi, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui me le disent. Et donc je lis ça devant le public qui avait sur place et bon bien sûr la réaction c'est vague de gêne où les gens savent pas trop où se mettre, gros silence, des petits rires étouffés, tout ça. Et je leur dis bah voyez vos réactions là, imaginez-vous que moi je me prends ça dans la gueule tous les jours gratuitement, moi aussi ça me choque et c'est juste parce que c'est dit à haute voix que ça vous perturbe, mais les lire dans sa tête c'est pareil, ça a le même effet, genre c'est violent quand même, on t'insulte ta mère, ton père, toi, enfin c'est très violent. Et puis, donc, on lance un débat là-dessus. J'avoue que même les gens avec qui j'étais autour de la table, ils étaient un petit peu réticents. Et j'avais prévenu avant, en leur montrant, en disant, voilà, je vais dire si c'est ça. Personne n'a voulu se mouiller, mais ça, j'ai aucun problème avec ça. Je comprends, parce que c'était quand même très cru, pour le coup. Et finalement, quelqu'un avait filmé ça en douce et avait attendu, genre, 2 mois après la sortie de la série pour balancer ça sur YouTube en disant, regardez la honte de la série. Elle n'a pas honte, elle dit des grossièretés devant tout le monde et ils avaient juste coupé la partie où je lisais en fait, où je disais les gros mots. Ils n'ont rien, ni avant ni après, donc pas de contexte, pas de... Voilà. Et donc, je me suis pris une vague de haine encore pire et j'essayais au début de dire, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Je suis en train de dénoncer justement le fait que je m'en prenne plein la gueule sur les réseaux et vous m'en mettez plein la gueule parce que j'ai osé dire ce que vous m'avez dit sur les réseaux parce que vous m'en mettez plein la gueule. C'était insensé et j'ai essayé de défendre ça et plus j'en parlais... Et plus on venait finalement m'insulter en disant « mais t'as pas honte pendant le mois de Ramadan, en plus tu dis des grossièretés pareilles pour une femme, c'est honteux. » Il y en a un qui m'ont dit « si tu dis ça devant des hommes, ah, c'est là, mais les gars, vous vous rendez pas compte ou quoi ? C'est ces hommes en question qui me disent ça, vous comprenez ?» Et en fait, j'avais trop peur que ça ait un impact sur la série, sur la production, enfin tu vois, sur un projet qui me dépasse et je me dis « ouais, si c'était que moi, là j'aurais pris les armes et j'aurais osé. » Mais là, il y a autre chose qui est entrée en jeu et ça me dépassait. Donc, ben voilà, franchement, c'est pas que je regrette, mais aujourd'hui, je me sens un peu lâche parce que j'ai juste fait un post en me disant, bon, ben, mea culpa, écoutez, voilà, il y avait un contexte. Je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit ça parce que je voulais dénoncer le cyberharcèlement qu'on se prend sur les réseaux sociaux qui n'est pas normal. Je comprends que ça a pu vous heurter. Je suis désolée que ces mots vous aient fait mal. Mais en même temps, ces mots-là, voilà, tu vois, c'est pas moi qui les ai. Voilà, bref. Et j'ai dû quand même me taire, donc j'ai appelé le producteur qui m'a dit « écoute, c'est pas bien grave, ça fera quand même parler, mais si tu pouvais rester tranquille pendant un petit moment, ce serait pas mal aussi. Okay. » Enfin, tu vois. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis « zut, quoi ». Franchement, je me sens hyper lâche en me disant « bah c'était le moment où j'avais osé lancer un débat ou en tout cas essayer de discuter de quelque chose. » Et puis, je me suis très vite tue parce que finalement, le retour était… Je me suis pris quand même une très, très, très grosse vague de haine. Et j'ai pas osé. Et en même temps, c'est aussi parce que je me sentais hyper seule. En fait, personne n'a osé prendre parti. Personne n'a osé. On m'envoyait des messages privés en me disant ouais, mais enfin, désolé pour tout ce que tu subis. C'est dommage parce que, enfin, tu vois. Mais en soi, publiquement, personne n'a osé prendre la parole. Et c'est là où tu te dis bon, tout seul, finalement, c'est un petit peu compliqué. Et c'est là où je me dis j'aurais quand même voulu qu'il y en ait qui, parce que l'union fait la force, surtout dans ce domaine-là et dans ce milieu-là où c'est à force de partager que il y a un vrai débat qui se crée. Je ne dis pas que j'ai raison, que j'ai tort ou que j'ai bien fait. Je pense que la forme n'était peut-être pas la bonne.
Ouais.
Mais voilà. Mais je pense que j'aurais voulu être soutenue. Et c'est le seul truc où je me dis, c'est le regret que j'ai, c'est que je me dis, bon, c'est dommage. Parce que on n'était pas. Voilà, c'est vraiment chacun pour soi, chacun pour sa gueule. Alors que moi, ça, c'est l'inverse. Moi, je sais que j'ai déjà pris position et j'ai déjà pris parti parfois pour des trucs un peu moins graves et moins. Voilà, moins violents. Où j'ai dit oui, c'est pas normal, regardez, arrêtez quoi, arrêtez d'être comme ci ou comme ça, c'est pas juste ou quoi. Et c'est pas que je donne en attendant un retour, mais voilà, c'est un minimum, je trouve, de prendre position, parce qu'on sait très bien à quel point ça peut être ouais. moralement compliqué et très dur.
Ça met le moral à zéro, enfin, tu t'es pas bien quoi, c'est horrible d'avoir des phrases négatives comme ça là.
Ouais, ah, mais c'était très violent, vraiment très, 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 très violent quoi. C'était un truc de ouf, ça a duré longtemps en plus. Et d'ailleurs, je me suis, pendant un mois ou deux mois, je crois, j'ai coupé les réseaux, je pouvais plus. En fait, je pouvais plus rien faire, j'arrivais pas à faire semblant d'être OK. C'était pas possible. C'est dommage. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec un peu de, je sais pas si c'est une histoire de maths, si c'est parce que je suis plus mature, plus sûre de moi et de mes combats, ou parce que je suis partie, je pense qu'en fait, c'est un peu de tout. Que maintenant que je suis loin, j'ai l'impression que ma parole est plus libre et que je suis moins en danger entre guillemets.
Depuis t'es à Paris là si je comprends bien.
Oui, là ça y est, là depuis 2018 je vis en France.
Donc t'as arrêté la petite série en question et tu t'es dit ok.
Oui, bah après c'était les deux saisons, c'était la fin. Okay. Et puis en fait honnêtement je voulais plus. Je voulais, je sais pas, mais je voulais plus en fait, que ce soit pour le à la base. Moi je suis partie en me disant que je voulais développer le côté influenceuse et que je voulais vraiment travailler avec des grandes enseignes qui me faisaient rêver à l'époque où j'étais là-bas en Algérie, à savoir Sephora déjà, la base, Sephora et toutes les marques en réalité de beauté et de cosmétiques, parce qu'il y en a pas d'officiellement installées en Algérie, en tout cas pas encore, tu vois.
Ah ouais,
et ouais, je te jure, il y en a pas.
Okay.
Bah je sais pas, c'est pas un marché alors que purée, c'est... Enfin, la demande est vraiment là, tu vois, mais les marques, je sais pas pourquoi, il y en a pas sur place.
Incroyable. Écoute,
ouais. Après, je pense que administrativement, ça doit être un petit peu compliqué, et c'est sûrement pour ça. Je me suis pas renseignée plus que ça, je t'avoue, mais c'est très dommage parce que purée, il y a vraiment de quoi faire.
Ouais.
Et donc ouais, je voulais partir, je suis partie en tant que voilà, en me disant dans ma tête que je voulais avoir une agence, que je voulais travailler plus mes vidéos YouTube et faire ma place ici dans le game.
Ok.
Et faut savoir qu'entre temps, j'ai fait un film qui s'appelle Papicha, qui était mon premier rôle de cinéma. C'est un film algérien par une réalisatrice algérienne, mais disons destiné au monde quand même, tu vois. C'était super. Elle aussi, elle est venue en parce qu'elle voulait vraiment faire son film en Algérie avec des comédiennes algériennes. Ça lui tenait à cœur. Et donc elle a cherché une comédienne. Et là, une directrice de casting en Algérie qui a proposé mon profil parce qu'elle m'avait vu dans le Khawa et tout. Et voilà, j'ai passé le casting. Et c'est grâce à ça que j'ai eu mon rôle de Wassila dans Papicha, qui a fait le tour du monde et qui m'a finalement par la suite permis de me réorienter, disons, une fois à Paris.
Ok, et donc du coup maintenant Paris, on en est au max. T'es au max de t'es au max de ta carrière là.
Ah là, je suis au max de ma life là.
Ok, raconte un peu, fais-nous rêver un peu.
Alors, au début, ça ne faisait pas spécialement rêver. Je suis arrivée en me disant, bon, allez, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas si je vais y arriver, mais Papicha n'était pas sorti. On voulait juste de le tourner. Ça venait d'être fini. C'est un film indépendant, c'est un film à petit budget. Donc, c'est un beau film, tu vois. Il y avait un vrai potentiel et une vraie force. Et encore une fois, c'était aussi en plus un sujet, comment dire, qui, c'est même pas symboliquement, c'est vraiment qui représente énormément, que ce soit pour l'histoire de l'Algérie, pour la mémoire de l'Algérie, pour nous en tant que jeunes. Enfin, c'est un film en fait qui, pour te le résumer, c'est pendant le terrorisme en Algérie, donc les années 90, un groupe de jeunes filles étudiantes qui du jour au lendemain en fait se retrouvent dans cet univers, atmosphère de guerre civile. qui montent crescendo et en fait leur vie normale et qui semblait si simple de jeune fille, voilà, qui a envie de vivre, de sortir, de tomber amoureuse, de faire la fête et tout ça, commence un petit peu à être perturbée par ce qui se passe autour, par l'intégrisme religieux. Et elles sont rattrapées par tout ça, et c'est une histoire un peu dramatique, mais au final, c'est quand même, enfin, moi, je considère ce film comme un message d'espoir, un message de liberté, un message de force, voilà, de résistance. Et donc, ce que ça représentait aussi en tant que femme, toujours. Mais voilà, on n'imaginait pas la portée que ça a eu, pour le coup. Et donc j'arrive à Paris, j'ai un bol de ouf où en fait je me décide très vite parce que je commence à y penser, et puis je parle à des filles que je connais ici qui sont dans l'influence, Anan Sarin et Nesrine, ouais. Qui s'appelle Nes Beauties. Et donc je parle avec elles et puis on discute, et puis à l'époque j'avais encore des commentaires assez chauds, assez méchants, tout ça. Et on discute, on dit putain, j'en ai marre, là, là. Et puis elles me disent, mais pourquoi tu restes en Algérie? À l'époque, j'avais, je crois, 1 million déjà d'abonnés sur Instagram. Je tournais toujours autour de 100 000 vues sur YouTube, 200 000, 200 000. Et elles me disaient, mais avec tes chiffres, t'es folle ou quoi? Bah, viens en France. Et je disais, mais ouais, mais qu'est-ce que je vais venir faire en France? Ma communauté, elle est algérienne, je connais personne, je connais aucune marque. Et même pour faire ma place, enfin, il y a une histoire de stats, tout ça. Elle me disait, mais tu t'en fous, nous on est là, t'inquiète pas, on va t'aider, on va te présenter aux gens, on va t'emmener aux événements et tout, t'inquiète. Ouais, grave cool. Et franchement, je me dis, ouais, mais c'est pas si simple, tu vois. Je leur dis, mais enfin, tu vois, j'ai pas de taf, donc pour trouver un appart, à l'époque, j'étais étudiante, je sais à quel point c'est compliqué. Comme, enfin, tu vois, c'était tellement trop flou et tellement, enfin, c'était voué à l'échec pour moi. Puis elles insistent, bon, bah, j'en parle un peu autour de moi. À l'époque, j'étais avec mon fiancé, donc on en parle, je lui dis mes envies, puis on se dit, ouais, mais comment faire, tout ça. Et puis j'en parle donc à ma belle-sœur, à la sœur de mon mec à l'époque, et qui me dit oui. Alors elle venait de se marier et son mec quittait son 15 mètres carrés.
D'accord.
Elle me dit si tu veux, bah tu le reprends. Okay. Ah, je dis mais ouais, mais j'ai pas de dossier, tu vois, je suis pas salariée et tout. Elle me dit ouais, mais c'est son frère qui est le proprio.
Ah bah parfait.
Oh, ouais, je suis là, my god. Et tu sais, je crois vachement aux signes de la vie, aux voilà. Petits trucs comme ça tous les jours où tu dis bon. Là, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc, enfin, franchement, il y a un truc là, il y a un truc qui me dit, Dieu me dit, écoute, vas-y, quoi, ouais. Tente. Ok, donc je dis, bah, tu sais quoi, tu pars quand et tout, est-ce qu'il y a moyen? Il me dit, bah ouais, bien sûr, 15 mètres carrés, tu le reprends direct. Il me dit, si tu veux, enfin, je te fais un contrat de sous-location, parce que c'est un peu compliqué, et puis il y a plein de trucs à refaire en vrai. Donc, si c'est pressé, on se fait une sous-loc et tu viens direct, tu vois. Et au final, en 2 mois, j'avais les économies des deux séries que j'avais tournées, qui m'avaient rapporté quand même un petit peu de thunes, où je me suis dit, voilà, je peux tenir, allez. 5 mois sur mes économies.
Ok.
Tu vois, en payant mon loyer, en vivant ma vie normale et tout. Ok, je me dis, allez, en 2 mois, j'ai pris mes affaires, je me suis barrée. Avec mon mec, on s'est dit, ouais, bah, dès qu'on peut, tu me rejoins. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis au début, donc effectivement, elles ont été au top, les filles, elles m'emmenaient avec elles aux événements. J'ai rencontré des gens, vendeurs de marques et tout. Il y a même une agence qui m'a contactée, mais bon. C'était pas forcément ce que moi j'attendais, parce que c'était quand même une agence qui faisait beaucoup plus, qui avait plus de gars qui sont dans le sport ou un petit peu dans la télé-réalité. Donc c'était pas forcément ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment des marques cosmétiques. Je me suis dit, Sephora, c'est mon but ultime.
Ouais.
Et donc ça a commencé comme ça, mais au moins ça m'a rapporté un peu de thunes. J'avoue qu'au début, je faisais des trucs, enfin, je validais ce qu'on me. C'est-à-dire que je proposais pas de la merde non plus,
oui, oui, oui.
Mais c'est pas ce que je voulais proposer, tu vois, parce que c'était pas non plus dans le make-up et les cosmétiques, tu vois, il y avait des compléments alimentaires,
ouais.
Enfin, j'en consomme quotidiennement, mais c'était pas mon objectif principal, tu vois.
Ouais.
Donc j'étais hyper déçue, je me disais, bon, ça va arriver un jour, tout ça, et puis là, il y a Papicha qui sort, Papicha qui commence à exister dans les festivals, Papicha au festival de Cannes, Papicha au festival d'Angoulême. Oh, et là, je me dis, oh my god, ça prend une ampleur de ouf. Les critiques sont hyper positives. On parle que de ça. On est partout. On nous propose de faire des interviews partout. Enfin, tu vois. Et là, je me dis, oh my god, mais merci que tu sois venue à Paris, tu vois.
Mais c'est clair. Heureusement que tu as accepté ce 15 mètres.
Oh Dieu, mais je te jure, mais Astonouk, c'est dur quand même par contre, parce qu'à un moment, mon rêve commençant à se réaliser, je commençais à recevoir plein de produits de cosmétiques chez moi et tout, donc j'avais plus de place pour les ranger, et le fait de m'en plaindre, c'est la putain, j'ai plus où mettre mon maquillage, tellement j'étais heureuse.
Les problèmes de riche.
Tout à fait, tout à fait. Et franchement, c'est là que je me rendais compte que ça commençait à prendre. Je t'avoue que, en fait, si tu veux, du moment que j'atteins pas mes objectifs ultimes, j'ai l'impression que c'est nul. Ouais, et les gens me disaient, mais meuf, mais tu te rends compte ou pas, en fait? Regarde, t'es déjà sur la liste RP de telle et telle marque. Mais t'es sérieuse alors qu'il est arrivé il y a 3 mois, 6 mois? J'étais là, ouais, mais bon, les gars, je gagne pas encore complètement ma vie avec ça. Enfin, tu vois. Bref, il y a toujours un truc à redire. Et avec Papicha, là, c'était ouf parce que là, c'est une autre porte qui s'ouvrait à moi et on me disait, ouais, il te faut absolument un agent, tu vois, pour continuer le chemin. Et même ça s'est fait vraiment assez rapidement et assez naturellement. Ou bien sûr, j'ai rencontré 2-3 personnes et après, j'ai pu avoir mon agent actuel, finalement, qui m'a permis de passer plein de castings, tout ça, tout ça. Okay. Et en parallèle, ça a évolué aussi côté influence. J'ai réussi à avoir une autre agence. Parce que j'avais quitté la première, mais vraiment, je me sentais pas à l'aise. Et je me suis dit, bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Je préfère vraiment avoir un truc, quitte à bosser seule et à me casser un peu la gueule. Mais bon, c'est pas grave. Okay. C'était un changement permanent. Et mais puis là, j'ai...
Parce que moi, j'attends. Est-ce que tu bosses avec Sephora, enfin?
Attends, oui. Et du coup, et du coup, donc, c'est avec Sered Production. Sered Production, qui a été mon agence pendant un bon moment. Vraiment avec qui pour le coup ça c'était autre chose là, vraiment eux ils avaient des marques que je voulais, tout ça, et en parallèle j'ai rencontré plein de gens, plein de monde, et j'ai rencontré une fois une personne qui s'appelle Farnouche qui bosse chez Kendo, donc qui représentait la marque Kat Von D, Fenty Beauty, aujourd'hui aussi Ulla Henriksen, tout ça, et on discute, on se voit souvent, et puis elle aime bien mon profil, mais bon, on sait pas trop. Ils ont Marc Jacobs aussi, il y avait quelques OP, ils m'ont proposé des trucs, mais si tu veux, en fait, on m'avait toujours dit, on avait une pression de ouf, mes copines, tout le monde, en disant, écoute, les premiers contrats, si tu te laisses faire par rapport aux tarifs et que tu leur fais un tarif vraiment bas dès le début, t'es foutu. Parce que le mot va passer, parce que eux ils vont se dire, allez, c'est bon, c'est ces tarifs là, et le jour où tu voudras plus, on te dira, ah bah non, t'as bossé avec ce tarif là, donc ma chérie, no no no. Ah, t'es là, putain, la pression, parce qu'il y a des marques que je kiffe, j'ai envie, parce que je sais que ça va m'aider au niveau de mon image. Et t'es en permanence, en train de te remettre en question, en train de dire oui, mais non, oui, mais oui, est-ce que je dis non, est-ce que je dis oui, tu demandes des conseils à plein de personnes, on te donne des versions différentes. Franchement, pour ça, pour le coup, être tout seul et se lancer seul mais c'est horrible. Parce que ce milieu, en fait, il n'y a aucune règle. Non, tu cherches sur Internet, il n'y a rien.
Bah ouais. Tu sais que moi, j'ai accepté un jour un poste à 25€ pour Natural Mojo, quoi, mais enfin. Respecte-toi, enfin.
Nom de Dieu.
J'avais 30 000 abonnés à l'époque. Donc ouais, personne ne te dit rien, en fait.
Personne ne te dit rien, tu ne sais pas où te situer, parce qu'on te dit oui, mais voilà, tu regardes sur un cadre, on dit bon, allez, pour tant d'abonnés, c'est entre telle et telle fourchette. Après, on te dit, ah ben oui, mais non, mais ça dépend de l'engagement que tu as. Entre tel et tel engagement, tu attends. Oui, mais non, ça va dépendre de tes stats aussi, voilà, de la qualité. Et t'es là, mais les gars, en fait, je vais jamais m'en sortir. Wesh. C'est pour ça où là, tu te dis, bon, tu sais quoi, on fait un tableau, on leur dit, voilà, tant, et puis ciao. Mais au début, franchement, quand t'as envie de réussir, surtout quand t'as envie de payer ton loyer, ça marche pas.
Non.
Donc, ouais, j'ai accepté des trucs voilà, où j'y croyais moyen, qui n'étaient pas forcément ce que je voulais, à des prix qui n'étaient pas comme je voulais. Mais je me dis, c'est le game, tu vois, et puis on évolue, et puis bon, tant pis, quoi.
Ouais.
Mais au final, franchement, si je dois donner finalement un conseil ou une leçon, c'est qu'il faut vraiment se faire confiance et vraiment écouter son instinct au final, sans forcément trop se brader, genre 25€ le poste, non, tu vois. Faut quand même suivre un peu son instinct, son feeling, si c'est une marque vraiment que tu kiffes de ouf, qui a les mêmes valeurs que toi, qui est dans le même mood que toi et tout, je me dis, c'est pas bien grave, tu vois. Et puis, il y a toujours un moyen d'aller sur le côté humain, de dire, bon, écoutez, les gars, franchement, je vais bosser avec vous. J'ai envie de dire oui cette fois, mais s'il vous plaît, la prochaine fois, prévoyez un budget plus gros, tu vois. Et je pense que c'est des choses qui peuvent se dire parce que on est des humains au final et on peut communiquer, on peut échanger, on peut être un peu empathique, tu vois. Voilà. Et donc, ça prenait quand même en parallèle. Alors, le premier. Alors, attends, Sephora. Donc, ouais, Sephora, en fait, je crois que c'est grâce à mon agence que je me retrouve un petit peu dans leur RP. Puis, en fait, c'est ça, c'est eux, je suis invitée à la journée presse, la fameuse journée presse. Donc, j'arrive là-bas, et alors là-bas, c'est le rêve, tu rencontres toutes les marques.
Laisse tomber.
Et parfois, les représentants, les directeurs, les créateurs des marques. Tu rencontres ceux qui s'occupent des relations presse, tu vois les nouveaux produits en avant-première. Enfin, franchement, j'étais comme une ouf. Genre, j'y passais. Les gens, ils viennent, ils passent 2-3 heures et ils rentrent chez eux. Moi, j'ai passé la journée entière.
C'était à l'ouverture, quoi.
Mais de ouf. Je refaisais les stands les uns après les autres. Je revenais voir les gens et tout m'intéressait et je kiffais tout. Et j'essayais de me mettre sur la liste de tout le monde parce qu'on te dit, ouais, donne-moi ton contact pour que je t'envoie les produits. On te les envoie une fois sur 5, mais tu vois, t'es là quand même. Et puis je revenais, et puis finalement je faisais des contacts chez Sephora, et puis elle, c'était hyper cool, et puis on discutait bien, et puis elle m'invitait. Et quand je recevais des mails, genre en mode, ouais, tel jour, il y a tel événement, est-ce que tu veux venir? J'étais là, non, 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 non. Et la première OP, c'était justement avec cette fameuse farnouche qui, à l'époque, me disait, oui, mais t'inquiète, patiente, parce qu'il y avait plein de trucs où on n'arrivait pas trop à s'entendre, ou tu vois, au niveau des budgets, c'était pas trop ça. Elle me disait, ouais, je suis désolée, mais je peux pas faire plus pour le moment et tout. Et elle me disait, écoute, tu sais quoi, un jour, genre patiente, patiente. Et je crois que c'était un an ou deux ans après. Et là, elle vient me voir, elle me dit, écoute, j'ai un super truc pour toi. Elle me dit, voilà, une super OP, hyper bien payée, avec Olan Riksen, une nouvelle marque qui débarque en France, que personne ne connaît. On veut que tu sois le visage de cette marque.
Cool.
Et là, les meufs, mais au téléphone, je suis là, ah, bah, c'est cool. Tu sais, en mode, ouais, normal. Oh, j'ai raccroché, t'es là, ouais. Mon Dieu! Et j'avoue, à un moment, je lui ai dit, ouais, franchement, c'est un truc de fou. Elle me dit, franchement, je t'avais dit, patiente, je t'avais dit, attends, genre, je suis excitée parce que même, en fait, si tu veux, vu que je l'ai rencontrée et que bon, je faisais quand même des stories, des trucs, mais parce que je kiffais vraiment les produits qu'elle m'envoyait, tu vois. Et mon agent, elle me disait, mais chérie, il faut vraiment que tu arrêtes de faire les choses gratos, en fait, tu fais tout le temps de la pub pour eux gratos. Je dis, ouais, mais je kiffe. Elle me dit, ouais, mais si tu veux être payée, enfin, pourquoi tu veux qu'ils te payent s'ils se disent, mais de toute façon, elle le fait déjà? Ouais. Je dis, ouais, bon, tu sais. Et donc, elle me mettait la pression et à la fin, je dis, bon, bah, finalement, tu vois, alors, ça valait le coup parce que c'est ça aussi qui permet de voir un peu que tu es vraiment investi et que tu aimes vraiment ce que tu fais, que tu parles bien des choses et que tu sais de quoi tu parles.
Mmh, c'est clair.
Donc, voilà. Sephora, premier trait, j'étais tellement émue et tellement stressée à la fois, mais je ne l'irai jamais, quoi. Franchement, là, je me suis dit, allez, first goal, check, c'est bon. Next. Okay. Voilà.
Et donc là, ça nous amène à Netflix, non? Si je me trompe pas.
Ça nous amène à Netflix.
Non, mais s'il te plaît, débriefons là-dessus.
Alors, ça aussi, Netflix. Comment te dire que là aussi, c'était... En fait, je te jure qu'à ce stade, en fait, je n'y pensais même pas tellement, c'était pas encore envisageable à mes yeux, tu vois. Je sortais de ce tourbillon papier-chat fabuleux. Tu sais jamais comment ça va retomber, parce qu'encore une fois, on te met beaucoup la pression autour en disant, écoute... c'est maintenant ou jamais, maintenant qu'on t'a vu. Après, on va oublier le film, on va t'oublier aussi. Donc, c'est vraiment maintenant ou jamais. On me mettait une pression dingue. Choisis bien ton agent. Il faut déjà qu'il vienne te voir, mais choisis bien ton agent. Choisis bien tes projets. Parce que là, tu es dans du cinéma d'auteur indépendant, très fort, machin. Voilà, c'est maintenant. Enfin, tu vois, une pression folle. Elle était tout le temps là en train de te poser un million de questions. Et moi, je trouve que tu sais, c'est perturbant parce que tu ne te concentres pas sur le principal, à savoir jouer et évoluer, et, tu vois. Bref, et finalement, encore une fois, les choses se font un peu toutes seules. C'est là où je me dis, je dois avoir un bon karma. Franchement, mais après aussi, ouais, mais après, entre parenthèses, moi, c'est un truc auquel je crois vraiment aujourd'hui, où tout ce qui est énergie, les vibes, les trucs, c'est que plus tu feras du bien autour de toi et plus ça reviendra positivement. Tu vois, j'y crois vraiment énormément et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à ne pas être mauvaise, à ne pas être jalouse, à ne pas être envieuse, à ne pas souhaiter, ne serait-ce que dans mon cœur, du mal ou des échecs aux autres. Et je me dis, je suis sûre que c'est ça qui m'a amenée là aujourd'hui. C'est le fait de ne jamais avoir fait d'histoire, de ne jamais avoir essayé de faire du mal à qui que ce soit, tu vois. Et j'y crois vraiment beaucoup. Et donc tourbillon terminé. Et en fait, je sais même plus comment il me contacte. C'est un peu à l'américaine, c'est un espèce d'agent manager qui m'écrit un jour, avant Papicha, bizarrement. Je sais même pas, en fait, c'est là, je sais ça. Il faudrait que je lui redemande. Je sais pas d'où il vient, ce monsieur. Il m'envoie un message, il s'appelle Florent. Il m'envoie un message, il me dit, voilà, ton profil est hyper intéressant. Je sais pas si t'as un agent ou quoi. J'aimerais bien te rencontrer. Voilà, je suis manager-agent. C'est un peu à l'américaine, donc je suis pas un agent total, mais bref. Est-ce que tu veux qu'on se voit? Et donc, je sais pas comment, je crois qu'il a vu des extraits, je sais pas de quoi, de séries qu'il avait fait en Algérie. Je lui dis, mais, enfin, tu comprends l'arabe? Il me dit, bah non. Enfin, tu vois, je dis, mais alors comment tu as compris que j'avais un petit truc ou quoi? Papicha n'était pas encore sorti, donc bon. Il me dit, non, mais voilà, je sens qu'il y a un potentiel, je sens qu'il y a un truc à faire, donc écoute, on va attendre que ça sorte, ce film, et puis on en discute. Et donc, c'est lui qui m'envoie un message un jour, après tout, donc, les festivals et tout ça, surtout les critiques qui parlent de Papicha, où il me dit, écoute, il y a un agent, c'est un pote à moi, il est super et tout, il s'appelle Léo Stern, si tu veux le rencontrer, il est vraiment chouette. Bon. Moi, à l'époque, j'avais été contactée déjà par un agent que j'avais rencontré, où j'étais là en suspens parce que je suis vachement une meuf de feeling. J'attends vraiment que de ressentir un truc cool avec les gens et pour y aller, tu vois, c'est plus ça qui m'intéresse que de savoir le CV ou le statut de la personne ou sa place dans le milieu, tu vois. Et donc, je rencontre aussi une autre agent apparemment hyper connue, à l'époque, l'attaché de presse de Papicha, il me dit « Meuf, il me dit, j'ai parlé de toi, genre, j'ai fait du forcing et tout, elle va te voir, t'as intérêt à assurer. Elle, genre, c'est une tueuse, tu vois, c'est un requin. Si tu peux être avec elle, mais c'est trop bien. Oh, je me dis, ah ouais, d'accord et tout. Donc, elle me rencontre, elle vient me voir, elle me dit, écoute, oui, j'ai adoré dans Papicha et tout, j'aimerais bien te voir quand on rentre à Paris. J'étais là, mais avec grand plaisir, enfin, avec ce qu'il m'avait dit avant, tu vois, c'est limite, je tremblais devant elle. Ah, j'étais là, oui, et tout, avec plaisir et tout. On rentre à Paris, ça se calme, je lui envoie un message, ouais. J'ai pas de réponse, tu vois. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et entre temps, je croise à la fin du festival l'agent en question que m'a recommandé l'autre agent. Et on se croise et il me dit, ah, tiens, c'est moi et tout. Je dis, ok, super. Je dis, bah écoute, là, désolé, j'ai pas le temps. Genre, on va rentrer à Paris, on déjeune vite fait. Et écoute, on se voit. Je dis, il me dit, ouais, franchement, j'aimerais beaucoup te voir et tout. Bon, ok. Donc, après avoir envoyé le message, je vois cet agent et on discute. Et puis je lui dis, ouais, donc, t'as vu Papicha et tout? Il me dit, non. Je dis, attends, là, on est en train de parler de. Enfin, quand on discutait, pour lui, c'était vraiment genre, on te signe. J'étais là, mais comment tu veux me signer, mec? Ça se trouve, je suis juste nulle et je joue mal et tu n'auras jamais de contrat avec moi. Il me dit, bah écoute, franchement, je fais confiance à Florent. T'inquiète, il faut que je le voie, oui, parce qu'il y a revenu de festival et qu'il y avait beaucoup de choses à voir et tout, que tu n'as pas forcément le temps, tu vois. Il me dit, mais j'ai aucun doute, donc pour moi, c'est à fond, tu vois. Et il y avait un super bon feeling parce qu'en fait, il est jeune. Il est, à l'époque, il était encore junior et j'aime beaucoup cette idée d'évoluer avec les gens. Okay. De partir d'en bas, si tu veux, parce que je trouve que la force qu'on peut se donner et le challenge qu'on a mutuellement, il peut être que bénéfique pour l'autre. Lui, il a sa place à faire, donc s'il a quelqu'un qui travaille bien et tout, ça peut que l'aider. Et moi, si j'ai un agent qui doit se battre pour faire sa place et prouver qu'il est dans le game, il va tout faire pour que j'ai des super rôles. Donc c'est donnant-donnant et ça marcherait trop bien. Et en plus, il est jeune, tu vois, c'est un mec posé. Et en fait, au final, la meuf en question, toujours pas de réponse, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai l'autre qui est en attente, qui est quand même un requin de ouf. Et il y a lui avec qui je m'entends hyper bien. Où je me dis, le mec est calme, il est cool. Et tu vois, il est vachement à l'écoute, il comprend ce que je dis. Parce qu'à l'époque, en plus, j'avais des doutes par rapport au côté influence. Où je disais, oui, mais regarde, tu fais ça à côté, est-ce que ça va poser un problème? Il me dit, mais pas du tout. Du contraire, ça peut être que bénéfique. T'as 2 millions d'abonnés sur Instagram. Tu penses bien que les plateformes et les trucs, ils vont se dire, bon, bah, c'est un avantage parce qu'elle pourra faire de la bonne com, tout ça, tu vois. Et j'aimais bien aussi le fait qu'il soit dans cet univers-là parce que l'autre personne que je devais voir, elle était un peu plus âgée quand même, tu vois, donc pas trop la génération connectée. Bref, et franchement, je me dis, bah, tu sais quoi, allez, tu le sens, fais comme tu le sens. Et donc, je lui dis, bah, tu sais quoi, vas-y. Oui, le soir même, je lui dis, ouais, vas-y, je veux signer avec vous. Donc voilà, après moi j'oublie l'autre, ça y est, tu vois, vu qu'elle n'a jamais répondu. 10 jours après, je reçois un texto en me disant « Oui, je suis vraiment désolée, est-ce que vous voulez bien qu'on se voit ? J'étais un petit peu sous l'eau, j'aimerais beaucoup vous rencontrer et tout. » Là, je me suis dit « Ok, j'ai déjà dit oui, et en même temps, est-ce que je veux être accompagnée d'une personne qui met 10 jours à répondre à mon texto, alors que mon profil l'intéresse, tout ça, et après… » Moi, je suis une personne qui a quand même besoin d'être rassurée, d'être accompagnée. Voilà, j'ai beaucoup de doutes, je me remets beaucoup en question, donc j'ai besoin d'envoyer des petits messages le dimanche à 20h pour dire oh, « Mon Dieu, je stresse, écoute, j'ai ça demain, je ne me sens pas à la hauteur » et qui me dit « Non, mais t'inquiète », qui m'appelle, qui me dit « Mais t'inquiète, regarde, non. » Et là, je me suis dit franchement, une meuf pareille avec un bagage pareil, avec son statut, avec qui elle est, jamais elle va prendre le temps de me répondre déjà elle-même, elle aura sûrement une assistante, tu vois. Et je me suis dit, allez, no regrets, go. Ouais. Et franchement, je suis hyper heureuse d'avoir fait ce choix. Au final, j'ai rencontré quelqu'un qui est représenté par elle, qui m'a dit, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu, tu es à son assistant d'abord, et puis si vraiment tu as besoin d'elle, et puis je suis là, ok, sans problème. Et maintenant, mon agent est passé senior, on a fait des super projets jusque-là ensemble, donc voilà, je suis hyper heureuse. Et pareil, c'est un petit peu c'est un peu tombé du ciel, tu vois. Je sais pas trop d'où ça vient, mais je suis bien contente.
Ton gars là, ton Léo, il t'a ouvert les portes de Netflix, du coup.
Ah ouais, mon gars sûr, mon gars sûr. Et juste après, mais juste après Papicha en plus, je reçois un mail. Il me dit, ouais, allez, premier casting, on y va à fond. Projet Netflix, à l'époque, je savais juste qu'il y avait Omar Sy dedans. Netflix, Omar Sy, voilà, un truc autour de Arsène Lupin et tout. Bon, je lis, je crois, les premiers épisodes, je me dis, oh my god, trop cool. Et à l'époque, je passe le casting pour Claire, qui joue le rôle, enfin, joué par Ludivine Sagnier. Donc, premier casting, et je sais pas, je sortais de Papicha, donc j'avais une espèce de confiance en moi de ouf. Et j'arrive comme ça, nonchalante, hyper cool. En plus, le directeur de casting est vraiment super, tu vois, il me grave à l'aise. J'avais déjà rencontré au festival, donc je me sentais trop bien. Le mec qui joue avec toi, enfin vraiment, pour avoir fait plusieurs castings maintenant, le mec, vraiment, il joue avec toi d'une façon tellement fluide et naturelle que tu as envie d'être dans l'impro et être cool, tu vois.
Ouais.
Genre, il a à peine son texte et c'est ça que je kiffe en fait. Et c'est là où je suis plus à l'aise. Où en fait, c'est comme si lui-même te disait, bon, allez, viens, on se fait confiance, viens, on y va ensemble.
OK.
Et donc, je passe mon cast, il me fait refaire les trucs et tout, ça se passe hyper bien, il est content. Donc, voilà, je me dis, ouais, c'est cool. Mon agent m'appelle, il me dit, écoute, bon, bah, c'est mort, enfin, t'es un peu trop jeune, tu vois, genre vraiment, tu fais beaucoup trop jeune. En plus, comme on l'a vu finalement dans la série, ils ont un gamin de 12 ans, et franchement, moi, avec le gamin, genre, on aurait dit que c'était mon pote, tu vois. Donc, il me dit, c'est mort, machin, mais ils ont aimé ton énergie et ils veulent te caler sur un autre rôle, le rôle de Sofia Belkacem,
Canon.
la flic. Puis là, mais bon,
Incroyable.
les gars, mais vous êtes. Oh. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. C'était très rapide finalement parce que ça allait très vite. Après, tu fais les essais, tu débarques aux essais caméra, t'as Omar Sy là qui est là, tu l'as, ouais, bonjour, salut, voilà, c'est moi. Hey!
Normal. Bonjour.
Voilà, et ça part comme ça, hein.
C'est ouf. Franchement,
Ouais.
comme toi. En fait, toute ta vie, c'est une succession de choix. Enfin, la tienne et celle de tout le monde, en fait. Mais du coup, c'est ça qui t'emmène là où t'es. Et c'est ouf le
Complètement.
choix que t'as fait. Alors que des fois, t'as
Complètement.
été tiraillée entre
Oui, je
ouais,
te
mais elle est
jure.
connue, elle est vraiment machin. Et en même temps, lui, il est sympa.
Complètement.
C'est ouf. Incroyable ton
Ouais.
histoire. Et du coup, si tu devais donner un conseil à genre quelqu'un là, boum, sans aucun abonné, zéro abonné, qui a envie de faire, tu vois, qui a envie d'avoir une carrière de ouf comme toi, quel conseil tu lui donnerais?
Ça, c'est dur. Bah, déjà, de ne pas s'arrêter. Parce que très honnêtement, au final, moi, j'ai toujours, en tout cas par rapport aux autres influenceuses qui ont le même nombre d'abonnés que moi, je suis loin du compte, tu vois. Mais c'est même pas que financièrement. C'est juste par rapport à l'impact, à l'engagement, à la place que j'occupe. Moi, je suis pas encore là dans le game, tu vois. Là, je suis en train de prendre plus de place en tant qu'actrice qu'en tant qu'influenceuse, par exemple. Parce que, effectivement, une fois que je suis arrivée en France, c'est plus du tout la même qu'en Algérie, tu vois, où on était 5-6. Ici, il y en a beaucoup qui font ça. Il y a tous les domaines qui sont dispos sur YouTube. Alors là, pour la beauté, le make-up, c'est full. Et surtout que je suis arrivée à Paris à un moment où ça commençait à vachement évoluer. T'as des Léna situations qui sont apparues. T'as beaucoup plus de vlogs, beaucoup plus de personnes qui partagent du quotidien que juste se poser devant une caméra avec un peu de maquillage en disant, hey, on va faire un tuto aujourd'hui, Smokey Eyes. C'est bon, ça a été revu, 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 revu. Donc, on était en plein dans l'innovation, dans la nouveauté. Donc, même moi, finalement, j'avoue que je suis arrivée, j'étais vachement perdue. Et franchement, après, il n'y a aucun secret, c'est taffé, quoi.
Ouais.
Taffé, franchement, moi, aujourd'hui, c'est ma référence. On n'a pas le même âge, on n'a pas du tout la même thématique. Mais Léna Situation, pour moi, elle a révolutionné le game de façon hyper positive et hyper puissante. Où elle a tout retourné en disant non, 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 on arrête tout. Elle a fait des trucs à l'américaine en mode Kaizenestat.
Ouais.
Vlog limite quotidien où tu fais des montages de malade, des cuts de malade où tu as un vrai rythme, alors qu'elle partage une journée d'une fille lambda, tu vois.
Ouais.
Lambda, mais au final, la façon dont c'est présenté, le storytelling, c'est un truc de ouf. Et ça, tu taffes, tu vois, tu taffes et tu vois le nombre d'heures qu'elle passe. Elle, ça a été par exemple son vlog d'août,
Ouais.
tu vois, où en fait, elle a passé un mois
Moi.
quotidiennement à
Ouais.
faire des vlogs. Et c'est là où tu dis, les gars, taffez, taffons, en fait, travaillons.
Mmh.
Et moi aussi, j'avais commencé à avoir une petite évolution, que j'avais commencé à faire beaucoup de vidéos et vraiment respecter les échéances que je me fixais, respecter ce que je promettais déjà, 2 vidéos par semaine. Et en fait, plus tu, c'est horrible parce que plus tu fais de contenu et plus on te suit et plus tu suscites l'intérêt. Et c'est
Ouais.
ce qui se passait avec elle, tu vois. Moi, c'est vraiment pour moi, c'est un sujet d'étude de cette fille parce qu'elle faisait quand même quotidiennement une vidéo. Et c'est là où ça a monté, ça a monté, ça a monté. Et au final, tu donnes rendez-vous aux gens et chaque mois d'août, bah, c'est une meuf qui te raconte ses vacances, tu vois. Mais au
Ouais.
final, voilà, elle est jeune, elle est fraîche, elle est cool, elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut et puis ça marche. Et au final, je dirais donc authenticité, travail. Ça, il n'y a pas de secret. Il faut faire, par exemple, en tout cas dans l'influence, franchement, il faut s'investir personnellement, financièrement. Voilà, faut acheter le matos qu'il faut. Après, le matos, honnêtement, moi, je trouve ça cool d'avoir un bon son et une belle image. Mais franchement, la caméra vlog à 400 euros là, de Canon, elle fait largement le travail.
Ouais.
Tu te prends un petit micro à 60 euros sur Amazon que tu colles, c'est fini, tu vois. Mais après, tu as le montage à côté, quoi. Tu te payes ton abonnement Adobe Premiere ou tu te payes ton Final Cut. T'as le choix entre 24 balles par mois et 300 balles en une fois, ce qui n'est pas rien au final, tu vois, quand tu es jeune, que tu es étudiant par exemple ou quoi. Mais il faut le faire. Et surtout, il faut s'y mettre, quoi. Donc tu regardes des vidéos, puis tu fais ton montage, tu fais. Et au début, je te jure que pour une vidéo, tu peux passer des jours et des jours, quoi. Quand tu connais rien, mais c'était horrible, je m'en rappelle, j'en pouvais plus. Juste pour faire un cut, il fallait que je regarde une vidéo de 10 minutes, juste pour couper et coller deux parties.
Ouais.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup plus et du coup, c'est plus simple un peu pour tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça arrive plus vite et surtout, il y a plus de contenu dans ce sens-là.
Ouais.
Et je me rappelle à l'époque, mais je mettais des heures et des heures et des heures à faire une vidéo, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, il faut se former sur le tas, il faut évoluer aussi artistiquement, créativement parlant. Il faut créer des nouvelles choses. Aujourd'hui, on est limite sur des courts-métrages. Les vidéos qui cartonnent, là, c'est des courts-métrages. Tu vois, les Cypriens, les Norman et tout. Mmh. Ils ont des équipes, tu vois. Mais c'est aussi ça qu'il faut essayer de faire tout seul, en fait. Il faut filmer, faut monter, et puis faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Créer du contenu, écrire du contenu. Mais c'est un vrai taf de ouf.
Mmh.
Et ça ne veut pas forcément dire que tu vas atteindre des millions très vite. Hein, mais voilà, je donne l'exemple aussi d'une amie à moi qui s'appelle Marion Séclin, qui a 300 000 abonnés sur Instagram. Alors elle, pour le coup, voilà, c'était pas le meilleur exemple parce que déjà, c'est une meuf qui a la créativité dans le sang. Elle fait tout, la meuf, elle fait tout, mais quand même, elle travaille beaucoup. Tous les jours, elle a un shoot, tous les jours, et c'est pas forcément des trucs rémunérés dans le sens où elle paye pas et elle s'est pas payée. Tu vois, elle fait ça juste pour avoir du contenu, du beau contenu intéressant. Ses stories, il n'y a pas une story où elle te raconte pas un truc, où elle fait un vrai montage, alors que c'est que des stories, tu vois.
Ouais.
Elle prend pas juste son téléphone en se mettant face cam en disant « Hey, salut les guys, j'ai reçu ça aujourd'hui. » Non, elle fait un storytelling, elle est drôle, enfin, tu vois.
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, c'est un peu, malheureusement, c'est beaucoup plus challengeant aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi la fraîcheur de la génération d'aujourd'hui, de la jeunesse d'aujourd'hui, hyper connectée, où t'as, franchement, je regarde TikTok, c'est tellement inspirant, TikTok. Il y a tellement de choses qui font, il y a tellement de gens qui font, mais ouf, c'est incroyable. Mais tu regardes ça, franchement, tu prends un carnet, et puis tu notes, et puis tu crées, quoi.
Et
Donc voilà, authenticité, travail et détermination.
Bah, ok, je prends note de tout ça, mais j'aurais pensé que t'allais mettre intuition aussi dans le tas. Parce que toi, franchement, ton intuition, elle t'a grave guidée, quoi.
Ouais, bah tu vois, mais ça, je me rends pas compte. Je mets pas ça sur la liste parce que je me dis c'est tellement aléatoire et tellement... ça dépend tellement pas de toi, en fait. Mais ouais, effectivement, intuition et se faire confiance. Voilà, faire confiance à son instinct et faire confiance. Et c'est même pas faire les bons choix parce que même les mauvais choix, ça sert toujours. Juste y aller, vraiment, y aller, en fait. Et du moment, pour moi, y aller, c'est se dire, allez, c'est pas grave. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose, et donc foncer aussi dans le tas et ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de se prendre le mur et de tomber, quoi.
Non, ça c'est clair, parce que sinon tu fais rien.
Ouais.
Exact. Mais toi, c'est dingue, tu vois, ce que je trouve vraiment cool dans ton parcours, c'est que tu as été, entre guillemets, aidé, ou en tout cas, tu es tombé sur un peu des bonnes étoiles qui t'ont...
Complètement.
Qui ont été OK pour t'aider, OK pour partager les trucs, alors que je trouve que, tu vois, dans ce milieu, c'est hyper rare. Hein. Les gens, ils gardent leurs trucs pour eux, ils veulent pas trop partager, surtout.
C'est vrai.
Et je sais pas, peut-être c'est tes vibes hein, qui font que les gens...
Ouais, mais ça dépend parce que tu les trouves. Mais au final, je me dis que, mine de rien, parce qu'au final, elles ne font pas signer de contrat, tu vois. C'est-à-dire que je veux bien... Enfin, elles m'ont emmené, mais au final, c'est quand même mon agence que j'ai eue par la suite.
Bien sûr.
J'ai plus ouvert de portes, tu vois. Donc, c'est pas elles non plus. Et je veux dire, au final, elles m'ont juste... elles ont juste eu un discours qui m'a motivée et qui m'a fait croire en quelque chose, en fait. Mmh.
Carrément.
Même si c'était pas elles que j'ai trouvées au bout du chemin, elles ont été là de ouf, mais au final, même si elles n'avaient pas été là, après, ça aurait été trop tard, parce que de toute façon, j'étais à Paris, hein, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, ça joue, c'est ne pas avoir peur et de se dire, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est ce que je me suis dit à l'époque, bon, bah, je pars, au pire, j'aurais perdu, quoi, 5, 6 000 euros et je rentre chez moi, tu vois, j'ai mes parents encore,
ah, oui.
Aucun problème, je rentre et puis je repars de zéro, enfin, même pas. Je repars de là d'où je viens, en fait. Ça ne changera rien. Et au moins, j'aurais essayé. C'est surtout ça, en fait. De ne pas avoir le regret de se dire « Ah, j'aurais dû essayer. »
Carrément.
Après, le résultat est là ou pas, ça ne dépend pas de toi, mais au moins, tu l'aurais
essayé. Tu n'auras pas de regret. Et du coup, quels sont tes projets, si tu peux en parler, ou ceux dont tu peux nous parler, plutôt ?
Alors là, ce qui va arriver déjà maintenant le 11 mai, là, juste là, il y a un super film dans lequel j'ai joué qui s'appelle Mention particulière. Alors j'ai un rôle secondaire, mais c'est surtout ce que ça raconte globalement que je trouve super. C'est une jeune trisomique qui arrive dans le monde du travail et on raconte un peu les difficultés qu'elle peut rencontrer. C'est très doux, c'est rigolo, c'est touchant, c'est. Voilà, c'est hyper chouette et surtout, enfin, humainement parlant, c'était un truc de ouf pour moi. C'était extrêmement enrichissant. C'est juste que le rapport à quelque chose qu'on connaît pas peut parfois nous bloquer. Et moi, c'était le cas. Et au final, tu découvres que c'est n'importe quoi et qu'il faut juste aller vers les gens et les choses que tu comprends pas pour justement apprendre à les découvrir avant de se sentir. Enfin, tu vois, parce qu'on se sent du coup, on a peur en fait de mal faire ou on a peur de faire n'importe quoi, mais en fait, il faut juste y aller et apprendre. Et donc, ça a été le cas et humainement parlant, c'était très très fort pour moi, et plus que, enfin, c'est vraiment génial, quoi. C'est un super projet réalisé par Cyril Gelba. Voilà, ça va être le 11 mai sur TF1.
Ok.
Et sinon, il y a une super deuxième série Netflix. Alors là, je suis
Ouh.
super contente parce que j'ai l'un des rôles principaux, on est deux acteurs principaux.
Voilà là.
Ça va sortir à Noël, c'est une comédie romantique sur base de féminisme.
Ok.
Et voilà, en fait, c'est une journaliste qui rencontre un rappeur. Voilà, et
Oh
je te laisse
là.
imaginer un peu, voilà, une journaliste un peu, voilà, c'est un peu une rencontre improbable. Et c'est super drôle et c'est super chouette. C'est une mini-série de 3 épisodes avec des acteurs géniaux et des actrices géniales surtout, une réalisatrice géniale aussi. Voilà, ça va être top. Ça, j'en suis hyper contente, j'ai vraiment hâte.
Trop bien.
C'était beaucoup de taf et je suis vraiment fière de tout le monde, quoi. Donc j'espère que ça va être cool.
Ça va cartonner.
Bah franchement, j'en doute pas parce que la Réal a tellement mis ses tripes là-dedans que ça, enfin, le mérite trop pour pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me rappelle même pas. Bah, il y a la partie 2 aussi de Arsène Lupin qui sort là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
C'est déjà énorme, hein, quand même.
Bah, c'était vachement bien, ouais. Ah oui, non, il y aura autre chose aussi sur TF1. Une autre série complètement différente sur un autre registre, un peu plus noir, disons. Voilà, qui arrivera aussi. Avec un rôle, toujours un rôle de flic, mais un petit peu plus, un petit peu, enfin, différent, tu vois. Ouais, plus sombre.
D'accord. Eh bien,
Voilà.
franchement.
Et ben, c'est cool, hein, ouais, franchement. Et puis, on continue de passer les castings, on continue d'apprendre, on continue d'évoluer, et c'est le plus important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, voilà, je voulais revenir
Oui.
par rapport
Ouais.
au monteur, mon équipe, tout ça. Je suis beaucoup moins présente, du coup, sur les réseaux sociaux, parce que, comme je t'ai dit, je me suis un peu perdue en ne sachant plus trop où trouver ma place. Et en même temps, il y a eu tout ça qui est arrivé, où j'avais beaucoup, beaucoup moins le temps de me concentrer sur de la création de contenu, sur de l'évolution, tout ça. Donc, autant au début j'avais peur de devoir faire un choix, autant voilà, le chemin est en train de se tracer un peu tout seul. Où
Mais plus pour les mêmes raisons.
je suis active un peu sur Instagram, mais voilà, je suis vachement mon instinct et mes envies. Et si je crée pour créer et avoir des vues et avoir des contrats, ça sert à rien. Tant que j'y prends pas plaisir, je mets ça en stand-by. Et puis voilà, quand ça viendra, ça viendra.
Ok, donc là, aujourd'hui, à part avec ton, tu travailles avec ton agent, point barre. C'est ça?
Pour le moment, oui. D'ailleurs, j'ai quitté mon agence aussi, en me disant que je voulais apprendre aussi à me débrouiller un peu seule et surtout pouvoir. Mais au final, voilà, c'est que tu t'es un peu dépassée. Donc, je suis toujours en plein de questionnements dans ma vie en général, comme tu peux le constater. Toujours en évolution permanente et en doute permanent. Et je me laisse un peu guider par mes vibes.
D'accord,
Voilà.
incroyable. Bah, franchement, j'ai envie de te dire que ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Donc.
Ouais, c'est pour ça que je me dis, écoute, continue
Ouais.
tant que ça marche.
C'est génial, franchement. Mais
Ouais.
merci beaucoup avec ton emploi du temps de ministre de nous avoir accordé genre 1 h 5 minutes, quoi. Incroyable.
Ça, c'est toujours ce qu'on s'imagine qu'on est un peu de malade. Franchement, je suis chez moi tranquille, j'ai mon petit lien, je suis chez ma soeur. Bon, j'avoue, ma soeur est là pour faire un casting, mais pour m'aider à faire une tape, mais non.
En tout cas, merci beaucoup, Chérine, pour tout ça.
Bah, merci à
Trop
toi.
incroyable. Et puis, bah, de toute façon, je mettrai toutes tes infos, évidemment.
C'est génial.
Et
Merci beaucoup.
puis, bah, à très vite alors.
À très vite.